J'allais vous poser la question, est-ce que vous savez ce qu'est un pantocrator ? Vous l'avez vu. Oui, mais vous m'avez pas répondu quand même. Qu'est-ce que c'est un Christ? Alors, un pantocrator, un Christ pantocrator. Un Christ tout puissant. Je me demandais si quelqu'un allait savoir. C'est pas grave. Vas-y, tu peux l'envoyer. C'est pas grave. Donc, le Christ pantocrator est un Christ en gloire. C'est-à-dire que c'est une représentation artistique, une image de Jésus-Christ dans son corps glorieux, par opposition aux représentations des fois plus humaines du Christ souffrant la passion de la croix ou celle de l'enfant Jésus. Tu peux afficher l'image. Donc, pantocrator, ça vient du grec et ça veut dire tout-puissant. Alors ici, sur cette image, la toute-puissance de Christ, elle est exprimée par plusieurs choses. Déjà, il y a une lumière qui n'a pas d'ombre, il y a une nimbe, une auréole qui entoure sa tête, et il y a des symboles grecs, alpha et oméga, de chaque côté. Il y a aussi les Saintes Écritures dans sa main gauche, et puis apparemment sa main droite levée dans un geste d'enseignement invite à la vie éternelle. Alors, pourquoi cette photo ? Voilà, pourquoi cette photo ? Simplement, c'est une accroche pour parler du thème qu'on va aborder ce matin ensemble, la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Tu peux l'enlever, merci. Alors, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de sa grandeur, de sa beauté, de son éclat, de sa splendeur, de ce qu'il est en fait dans son essence, car Dieu est glorieux dans tout son être. Mais en réalité, justement, il est bien difficile d'expliquer la gloire de Dieu, puisqu'elle regroupe tout ce qu'il y a de grandiose, de beau, de parfait en lui. Et nous allons le voir, tout cela est de toute façon incompréhensible à l'homme. Néhémie 9, verset 5 nous dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. » Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent exprimer. Dieu est glorieux dans ce qu'il est, on l'a chanté, mais il l'est aussi, comme on l'a chanté, dans ce qu'il fait. Sa gloire se manifeste aussi dans ce qu'il accomplit. On appelle cela la providence divine. C'est en quelque sorte la main invisible de Dieu qui agit, le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Il exerce ainsi une maîtrise parfaite sur toute chose. Pour vous donner des exemples, c'est Dieu fait pleuvoir l'eau du ciel pour arroser la terre et que la terre puisse produire sa semence. Il donne la vie à chaque être humain. Il détermine sa destinée. Il prend soin de toi et il conduit son peuple. Car en réalité, Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, il est aussi celui qui le fait subsister. Et cela le rend encore plus glorieux. Des fois, quand on fait quelque chose, c'est facile de produire quelque chose, mais après que cette chose se pérennise, c'est encore plus dur. Donc, Dieu est le Dieu de la création, mais non seulement il a créé la terre et tout ce qu'il a fait à l'intérieur, mais non seulement il l'a fait pérenniser, donc il fait subsister ces choses. Et il y a un homme dans la Bible qui a demandé à voir la gloire de Dieu. C'est Moïse. En Exode 33, verset 18, on lit « Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi. » Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il est donc impossible à l'homme de voir la gloire de Dieu, car ne nous pourrions pas la supporter. Elle nous dépasse, elle est trop grande. Sa gloire est donc difficile à exprimer, et impossible à voir. Pourquoi s'être lancé dans une telle entreprise alors ? Même si on ne peut pas comprendre dans son ensemble la gloire de Dieu, Dieu, il a rendu cette gloire perceptible à l'homme. Le psaume 19, versets 2 et 5 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. » Un autre passage aussi dans Job 12, versets 7 à 9 nous dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose ?» La beauté, la complexité de la création sont des manifestations de la gloire de Dieu. Dieu s'est ainsi exprimé, il s'est révélé dans sa création comme un artiste mettrait tout son savoir, tout son cœur dans son ouvrage. Nous étions il y a peu à la montagne pour le sport d'hiver et il faut reconnaître que la nature est belle. Elle est magnifique et vraiment elle nous réjouit. Le fait de changer de région, je me disais mais vraiment il y a des choses qu'on n'a pas nous, par exemple par chez nous, les forêts de pins, les choses comme ça et tout aussi. Et je me disais vraiment mais Dieu ce qu'il a créé c'est beau. La neige, tout ça, etc. Quel plaisir, quel bonheur qu'il nous a donné dans sa création. Il y a d'ailleurs l'homme qui a une place spéciale dans la création, puisque nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous sommes en quelque sorte le chef-d'œuvre, l'apothéose de sa création. Dieu nous ayant créés, pourquoi ? Pour sa gloire, justement. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait, nous dit Ésaïe 43, versets 6 et 7. Un commentaire que j'ai pu lire disait « L'homme est l'être le plus important dans toute la création, car il est le seul que Dieu a créé avec sa main et non par la parole. Et il lui a donné une partie de lui-même. Ainsi, à chaque fois que vous regardez une personne, vous devez voir Dieu en lui, peu importe s'il est une bonne ou une mauvaise personne. » Et je ferai ici une petite parenthèse pour parler de l'importance de voir de Dieu en chacun. Alors que j'écrivais ce partage, j'avais envie d'écrire qu'il est parfois difficile de voir la beauté de la création de Dieu dans l'être humain, quand on considère tout ce qu'il est capable de faire. Et bien que je vous dise quand même, au travers de cette réflexion, cette phrase qui n'a plus le même motif maintenant qu'à l'origine, en fait, à la première lecture, ma phrase, c'était un peu une attaque contre l'être humain, en disant, voilà, l'être humain, on a du mal des fois à voir la beauté de la création de Dieu dans l'être humain. Mais je voulais pas, à la base, je voulais enlever cette phrase parce qu'elle était négative. Et donc, je me suis permis de la reprendre quand même pour souligner justement le fait que l'être humain est une créature de Dieu, aimé de lui et accomplissant sa volonté. Dans mes recherches sur la providence, j'ai pu lire sur God Question, ce que je vais vous lire. Très concrètement, nous ne sommes libres de choisir ou d'agir que selon la volonté de Dieu. Tous nos choix et nos actes, même pécheurs, sont en plein accord avec sa volonté. On le voit dans Genèse 50, par exemple, avec l'histoire de Joseph qui a été jeté par ses frères dans un puits. Et on voit que ça a été pour le bien, parce qu'on voit dans Genèse 50, verset 20, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Au final, Dieu dirige nos choix et nos actes, sans pour autant violer notre responsabilité d'acteur moralement libre, ni nier la réalité de notre choix. La doctrine, c'est toujours sur God Question, ça que j'ai lu ça. La doctrine de la providence divine peut être succinctement résumée de la manière suivante. Dieu, de toute éternité, sur le conseil de sa propre volonté, a ordonné tout ce qui allait arriver. Mais il n'est en aucun cas l'auteur du péché et la responsabilité humaine n'est pas abolie non plus. Dieu accomplit d'abord sa volonté par des causes secondaires, exemple les lois de la nature ou les choix des hommes. Autrement dit, Dieu agit indirectement par ses causes secondaires pour accomplir sa volonté. Donc si chaque personne accomplit la volonté de Dieu, je dois le voir comme un acteur de son plan et ainsi le considérer et l'aimer. Je vais prendre dans ma Bible 2 Corinthiens 4. Versets 3 à 7. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et le commentaire de ma Bible dit ceci: Dieu a confié le sublime message du salut en Jésus-Christ à des êtres humains fragiles et faillibles. Cependant, Paul concentre son attention non sur la fragilité des témoins, mais sur le message inestimable dont ils sont porteurs, la puissance de Dieu résidant en nous. Dieu nous emploie pour propager la bonne nouvelle en dépit de notre faiblesse, et il nous communique la force d'accomplir son œuvre. Savoir qu'il s'agit de sa puissance, non de la nôtre, devrait nous préserver de l'orgueil et nous motiver à rechercher chaque jour le contact avec lui, la source de notre force. Notre responsabilité consiste à permettre aux autres de voir Dieu en nous. Dieu sait toutes choses et il conduit toutes choses. C'est pourquoi nous devons apprendre à aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils font, car ce sont des personnes que Dieu a créées et qui accomplissent sa volonté. Bien sûr, nous voulons voir des âmes sauvées et il est de notre responsabilité de mener les gens vers Christ, mais dans chaque situation, sachons que c'est sa volonté qui s'accomplira. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, elle se manifestait par sa présence visible au sein du peuple, souvent sous la forme d'une nuée, d'une lumière ou d'éclat. Et on peut penser du coup à la nuée qui conduisait le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, on peut penser à celle qui a recouvert le mont Sinaï lorsque Moïse a reçu les tables de la loi. D'autres passages font référence à un feu dévorant, notamment celui d'Élie avec les prophètes de Baal, où Dieu vient consumer tout l'Holocauste, qui avait même été arrosé avec de l'eau. Et puis, dans d'autres passages, on parle aussi d'une lumière éclatante qui vient illuminer tout l'espace de la gloire de Dieu. Je vous en donnerai un comme exemple, c'est dans Ézéchiel 10, versets 4 et 5. « La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. » Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix de Dieu, du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Donc toutes ces manifestations visibles, elles avaient le but justement de rendre visible la gloire de Dieu au peuple et d'authentifier en même temps le message, l'action des prophètes. Ces manifestations visibles, elles permettaient aussi de garantir au peuple que c'est bien Dieu qui parlait au travers des prophètes. Dans le Nouveau Testament, on retrouve, entre guillemets, ces mêmes manifestations de gloire, mais qui sont attribuées à la personne de Jésus. Jésus est la lumière du monde qui est venue illuminer la terre de la gloire de Dieu. Alors il est normal de retrouver en lui ces manifestations, puisque Jésus est Dieu fait homme. Hébreux 1, versets 1 à 4 nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Jésus est donc le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte ou l'expression de Dieu. Jésus, il est venu sur terre pour rendre visible ce qui nous était invisible. On le lit dans Colossiens aussi. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Jésus n'est pas qu'une représentation de Dieu, mais Dieu en personne. Il est la révélation complète, l'expression complète de Dieu dans un corps humain. C'est pourquoi Jean a dit « La parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » À travers sa vie, ses miracles, sa mort et sa résurrection, la gloire de Dieu s'est manifestée. Elle s'est en quelque sorte matérialisée. Alors je prends beaucoup de passages, mais je me suis dit, vaut mieux que ce soit la parole de Dieu que mes propres propos qui sont apportés. Et on voit dans Jean justement qui dit, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Alors pour tout vous dire, la parole que j'ai reçue initialement n'était pas la gloire de Dieu, mais le reflet de sa gloire. Et j'aimerais un peu m'attarder sur cette notion d'image et de reflet. Une image, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose, d'un objet, d'un être vivant ou d'un concept. Pensez donc au Pantocrator. Or, nous avons vu que ce Jésus est l'image parfaite du Père. Il était la représentation de Dieu sur terre pour révéler la gloire de Dieu. Et bien que Jésus soit révélé par l'image et révélé l'image du Père, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas comprendre complètement cette gloire comme on l'a vu depuis le début. Parce que la parole, elle nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir ni ne peut voir et à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Un autre passage de Corinthiens nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons un jour face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et j'ai eu un peu du mal entre deux versets parce que oui, Jésus est venu révéler la gloire du Père, et il y a quand même une forme de « on n'est pas encore capable de voir cette gloire complète, puisqu'on voit au moyen d'un miroir ». Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, le miroir était un bout de métal qui était poli, et donc quand on se regardait dans un miroir, on ne se voyait pas complètement en fait. On voyait une partie de notre reflet, mais ce n'est pas les miroirs qu'on a aujourd'hui, c'était un reflet qui n'était pas complet. C'est pour ça que dans ce passage, il dit qu'on voit au moyen d'un miroir parce qu'on n'a pas encore la capacité de voir Dieu dans sa gloire complète. Je vais prendre quand même un passage de Jean 14. Quand j'ai écrit, j'ai eu un petit peu une incompréhension, c'est-à-dire que je me suis dit, oui, alors on ne voit pas encore, mais pourtant Jésus est venu révéler sa gloire. Et donc du coup, est-ce qu'on est capable au travers de Jésus de voir la gloire de Dieu? Mais il y a quand même, oui, Mais il y a quand même une notion de... Il y aura une gloire future à laquelle on goûtera par la suite. Et on va le voir après. Donc je vais prendre quand même ce passage, mais je vais finir après avec ça. Donc Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi, c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause des œuvres. » Et donc là, on voit quand même que malgré tout, même Philippe, un des disciples qui était directement avec Jésus, il y a quand même des incompréhensions dans la personne de Philippe et il n'arrive pas à comprendre toute la gloire de Dieu. Et donc Jésus lui dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, pour l'instant, on voit encore d'une manière imparfaite. Et comme Jésus était l'image du Père, je crois que les croyants sont invités à être une image de Jésus. Même si l'image qu'on va renvoyer est imparfaite, on est invité à renvoyer l'image de Jésus. Dieu a manifesté sa gloire en nous pour que nous puissions manifester aux autres sur la terre sa gloire. Jean 17, versets 20 à 26 nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ah non, je vais le prendre parce que c'est qu'une partie du verset que j'ai mis. Donc Jean 17, 20 à 26. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mais en eux, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Donc Jésus est venu révéler la gloire du Père, et il nous a donné une capacité de voir cette gloire, puisque nous l'avons en nous. En tant qu'enfant de Dieu, notre but est donc de le glorifier. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et glorifier Dieu, c'est quoi ? C'est le louer, c'est lui rendre honneur, respecter sa sainteté. Et cela implique bien entendu de se conformer à sa parole et d'agir selon ses enseignements. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est Jacques qui nous dit ça dans le chapitre 1, versets 22 à 24. Rendre gloire à Dieu, c'est lui donner la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire celle du Dieu souverain et maître de nos vies. Cela implique d'être reconnaissant pour son amour, pour sa grâce, pour tous ses bienfaits, et ce, à chaque instant de nos vies. L'homme peut faire donc resplendir la gloire de Dieu. Comment, me direz-vous ? Eh bien, en faisant briller sa lumière au travers des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses appartiennent à Dieu et nous les portons en nous-mêmes dans des vases de terre que nous manifestons pour sa gloire, pour que la gloire lui soit rendue à lui. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples, nous dit Jésus. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une gloire qui viendra, une gloire future. Et aujourd'hui, on peut entrevoir la gloire de Dieu, mais un jour, nous la verrons pleinement. Et le jour vient où ceux qui ont été appelés recevront pleinement cette gloire que Dieu nous a promis. À la mort du chrétien, Le chrétien est introduit dans la présence de Dieu, où il sera naturellement entouré de sa gloire. Nous serons transportés là où réside littéralement la beauté de Dieu, et nous porterons son image sans voile ni distorsion. Alors ça s'est exprimé encore une fois dans 2 Corinthiens. On peut le prendre, 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux ? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors mon encouragement pour vous ce matin, justement, c'est de voir la gloire de Dieu en vous, de chercher à vivre cette gloire et de vous laisser transformer à son image de gloire en gloire, car un jour, sachez que vous porterez cette gloire qui est venue du ciel, car Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à son image. Le Seigneur est avec nous et on peut porter son image, justement, on peut refléter la gloire de Dieu, même si ce reflet est encore incorrect et encore peut-être un reflet qui est flou, qui ne renvoie pas exactement la même image. Il faut chercher à porter de gloire en gloire cette image du Seigneur afin que Dieu puisse être vu en nous par les autres. Voilà pour ce que je voulais vous apporter ce matin et j'aurais bien aimé finir par un chant qui s'appelle Bénédiction, qu'on a chanté pour le mariage d'Aurélien. Alors, est-ce que les musiciens peuvent revenir ? On va prendre ce chant.